7 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Nous parlons d'éducation, comme chaque vendredi dans l'émission, à l'occasion de la semaine de la presse à l'école en France. RFI, vous le savez, s'associe à ce rendez-vous annuel pour s'interroger. En tout cas, chez nous, nous allons poser cette question. Comment enseigner un jugement critique et citoyen face aux médias qui sont désormais, c'est vrai, partout, si l'on inclut les réseaux sociaux? Quelle distance ont les jeunes par rapport à ce qu'ils regardent, à ce qu'ils lisent? Les professeurs sont-ils suffisamment formés pour faire travailler leurs élèves sur l'actualité, avec l'actualité? Et puis d'ailleurs, la presse doit-elle véritablement entrer dans les programmes scolaires? Nous laisserons la parole à des jeunes dans des lycées français de l'étranger, à Oslo, à Bangkok, à Bamako. Et pour dialoguer avec nos invités, que je vous présente tout de suite, Jean-Marc Mériot, directeur général du réseau Canopée Clémy, qui organise donc la semaine de la presse à l'école. Bonjour.
Bonjour.
Alors le Clémy, je le précise, c'est un centre d'éducation aux médias et qui travaille main dans la main avec l'éducation nationale. C'est vraiment un partenariat très fort entre deux organismes publics. Vous nous direz d'ailleurs s'il y a ce type de collaboration comme ça, aussi implantée, aussi institutionnelle dans d'autres pays d'Europe. Étienne Récamier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le coordonnateur Clémy de l'Académie de Paris et vous connaissez très bien ce terrain de l'éducation aux médias dans les collèges, dans les lycées.
L'école.
Exactement, et dans l'école aussi, les écoles primaires sont concernées. Vous animez des ateliers sur le sujet, vous aidez à monter des blogs notamment.
Et les dispositifs.
Voilà, j'ai le plaisir d'accueillir un collègue que vous connaissez très bien, les voisins, Stéphane Lagarde, bonjour.
Bonjour.
Alors vous nous avez raconté la Chine au quotidien pendant combien d'années d'ailleurs ?
3 ans et demi.
3 ans et demi, correspondant à Pékin pour RFI. Aujourd'hui, vous êtes au pôle international de RFI. Actualité chaude, reportage sur le terrain, enquête longue et difficile. J'espère que vous nous parlerez aussi de votre expérience pour répondre à toutes les questions que je viens d'évoquer. Et quant à vous, les voisins, que vous soyez enseignants, parents ou étudiants, comment enseigner la distance, le jugement critique nécessaire à tout citoyen, finalement, face à la presse? Appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. Allez, je vous lis quelques messages postés sur les réseaux sociaux. Oumar répond à la question, il est à Dakar, apparemment il est enseignant. J'exige de mes élèves, nous dit Oumar, un tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale à chaque cours. Au début c'était difficile parce que les élèves avaient peur de parler devant leurs camarades, mais ils y ont pris goût et aujourd'hui ce sont eux qui me le rappellent quand j'oublie. C'est une manière aussi de les mettre au diapason de ce qui se passe dans le monde, mais aussi de leur faire comprendre le rôle de la presse dans la société. Et selon moi, nous devons enseigner les médias à l'école. C'est vrai aussi que les médias permettent aux élèves de prendre la parole, parce que je sais pas, en France on n'est pas une école qui fait beaucoup prendre la parole, je compare au système anglo-saxon par exemple, non ?
Je sais pas, moi j'ai pas cette perception-là, mais dans ce qu'on essaie de préconiser, de mettre en place dans les écoles, les collèges et les lycées, ce que vous venez de décrire, c'est vraiment ce qu'on essaie de mettre en place dans nos actions d'éducation média, c'est de travailler avec les élèves en leur donnant la parole et en les laissant parler, en leur faisant parler sur les médias, leurs médias de prédilection, là où ils s'informent, là où ils vont de façon privilégiée pour trouver de l'information.
Oui, je vous en prie.
Je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est surtout de faire que ça puisse passer partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des initiatives, elles existent, elles sont là, mais on n'est pas encore dans la généralisation de l'éducation aux médias comme un vrai support pédagogique. Et je pense que là-dessus, c'est ça l'enjeu. Et dans l'exemple que vous donnez là, du message, c'est vraiment cette approche-là de se dire ça doit se passer tout le temps, partout, et utiliser l'éducation aux médias comme un vrai, vrai outil.
Moussa est à Kaolack, enfin il est dans la région de Kaolack, toujours au Sénégal, il est prof de SVT, et il nous dit « L'avis des élèves sur l'actualité m'intéresse beaucoup. Quand je leur pose des questions sur l'actualité du pays, je suis étonnée, ils ne connaissent rien. Par contre, dès qu'il s'agit de l'actualité de la mode, alors là, ils sont au courant de tout. Les professeurs de lettres, selon Moussa, devraient pousser les élèves à consulter les sites d'information, donner leur avis sur l'actualité politique, économique et culturelle du pays. Est-ce que les profs doivent donner leur avis? C'est pas la même chose, travailler sur les médias et donner son avis. Pente glissante, non, Stéphane?
Moi, je pense que ça doit rester un jeu. Quand j'étais lycéen, je me souviens, moi, je découpais les journaux, Le Monde notamment, après
ah, oui.
Libé. Pas tout le temps, parce
d'accord,
que ça coûte cher quand même, les journaux.
Vous êtes ici.
Mais j'adorais ça, donc je découpais, je faisais des croisements, et donc je pense que si ça reste un jeu, effectivement, pourquoi pas s'intéresser à la mode? On parle de la mode dans tous les journaux, comment on en parle?
Oui, il n'y a pas de sujet plus futile que d'autres, il y a des sujets parfois plus graves. En tout cas, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On parle de la presse et de l'éducation. Alors cette année, donc Jean-Marc Mériot et Étienne Récamier, cette année, c'est la semaine de la presse à l'école, comme chaque année en France. Mais sauf que cette année, la semaine de la presse à l'école arrive 2 mois après les attentats contre Charlie Hebdo. Est-ce que ça a changé quelque chose dans les classes, l'ambiance, Étienne Récamier?
Oui. D'abord, si je peux me permettre, c'est la semaine de la presse et des médias à l'école. Hein. C'est très important pour nous de mettre en avant.
Ça a changé de titre au fil des années.
On suit bien évidemment l'évolution des médias. On n'est pas lié, c'est pas seulement la presse écrite. Hein. C'est les médias au sens large. Évidemment que dans les classes, ça a beaucoup bouleversé les choses et ça a justement mis en évidence qu'il fallait des lieux de parole, d'expression des élèves pour pouvoir justement parler après les événements, notamment sur Paris évidemment où je travaille dans des quartiers. On a travaillé avec des collèges qui étaient tout près de Charlie Hebdo. Et c'est vrai que ça a nécessité de parler avec les élèves, surtout de les laisser parler.
Mais voilà. Jean-Marc Mériot, vous le savez, dans la presse, quelques jours après les attentats, les enseignants ont beaucoup dit qu'ils n'étaient pas armés, contrairement d'ailleurs aux journalistes, pour aborder ces sujets en classe qui évidemment, arrivaient sans crier gare. Et ça a été une vraie souffrance et difficulté pour l'éducation nationale.
Je pense qu'en effet, ça a été une difficulté pour eux, mais c'est une difficulté aussi de gérer le débat. C'est-à-dire ça va au-delà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut réapprendre à gérer le débat dans la classe. Et je pense que l'enjeu de l'éducation aux médias et à l'information, c'est beaucoup ça aujourd'hui. C'est de redonner des outils pour gérer le débat dans la classe, pour pouvoir libérer la parole. Et c'est la question de la liberté d'expression. C'est aussi ces éléments-là, dans le respect de l'autre. C'est tout ça qu'il nous faut construire aussi aujourd'hui à travers un certain nombre d'outils, un certain nombre de choses à mettre à disposition de l'enseignant. Et ça passe aussi par la formation de l'enseignant sur ces questions-là. Aujourd'hui, c'est un des enjeux très très forts de l'éducation nationale, de former les enseignants aussi à tous ces enjeux.
Gérer le débat, effectivement, les enseignants sont quand même d'abord formés pour enseigner leur matière, délivrer un savoir magistral, hein, il faut quand même le rappeler. En France, je le disais, il y a un vrai partenariat depuis de nombreuses années entre l'éducation nationale et les médias, à travers le CLEMI, hein, qui sert de trait d'union. Est-ce que ça se fait ailleurs en Europe également, oui. L'éducation aux médias?
Oui, ça se fait ailleurs. Il y a une vraie dynamique qui se crée aujourd'hui au sein de. Excusez-moi.
Et Étienne Récamier, oui. En France, c'est vrai que une partie de la presse est largement aidée par l'État. Est-ce que ça vient aussi du coup renforcer ce partenariat entre la presse en général au sens large et puis l'éducation nationale?
Le fait que la presse.
Le fait que, si vous voulez, on a des médias publics qui sont très présents, très forts en France, contrairement à d'autres pays.
Oui, ça facilite un petit peu les choses, mais pas forcément. Vous savez, dans nos actions, par exemple à Paris, de mise en relation entre les élèves parisiens et puis les médias, je peux vous le dire en toute franchise qu'on a souvent été mieux écoutés par Europe 1 que par Radio France.
Ah oui,
on a développé beaucoup d'activités depuis 2 ans avec Europe 1, Europe Midi, etc. Alors que avec
RFI est très à l'écoute aussi.
Avec Radio France, c'était difficile. Avec RFI, on a travaillé il y a quelques années. On a eu une émission avec RFI qui se faisait régulièrement une journaliste de RFI venait dans les classes parisiennes et faisait parler les enfants, mais ça s'est arrêté il y a 3 ans à peu près.
Moi, j'entendais mon voisin gérer le débat, pas le gérer trop non plus. En Chine, j'ai eu cette expérience qui m'a beaucoup frappé, parce qu'en Chine, on dit qu'il y a de la censure, effectivement, et puis qu'à l'école, aussi, le discours est contrôlé, que les manuels scolaires sont pas tout à fait, contiennent une vérité officielle. Et une fois, la réalisatrice française Zabou Breitman est venue faire une classe comme ça, parler du cinéma français, notamment, elle présentait son film dans un lycée. C'était au nord de Pékin, il y avait tous ces élèves, alors tous ces Chinois, filles et garçons, tous pas en uniforme, mais là-bas on est en survêtement, hein, tout le monde était comme ça aligné. Et ça a été une forêt de mains levées, des questions de partout sur la production, comment on produit, comment on est indépendant. Donc gérer le débat, dès que les professeurs n'étaient pas là, enfin il était dans le coin, même en Chine, il y a une aspiration à comprendre, à savoir, on a envie de poser des questions. Et je pense que dans les classes françaises, c'est pareil, évidemment, il y a quand même des questions qui se posent. Alors gérer le débat, mais il faut aussi l'ouvrir.
Il y a un aspect générationnel, c'est très clair. Alors justement, on parle des jeunes, on est en ligne avec une lycéenne à Oslo, en Norvège. Bonjour Joséphine Blanc.
Bonjour.
Joséphine, vous êtes une lycéenne française de 16 ans, mais vous n'avez jamais vécu en France. Vous avez grandi en Grande-Bretagne et en Norvège, donc. Là, vous êtes en classe de seconde au lycée français René Cassin, c'est bien ça?
Oui.
Et vous participez dans votre... Alors, je sais que vous êtes un peu intimidé parce que vous êtes dans le bureau du proviseur, là, pour avoir accès au téléphone fixe. J'espère qu'il ne vous surveille pas trop. Mais
non, ça va.
Vous participez dans votre lycée à une web radio, ce qui vous a donné l'occasion, l'année dernière, je crois, de participer à un voyage de classe à Bayeux, à l'occasion du prix Bayeux Calvados, le fameux prix qui récompense les correspondants de guerre. C'est un voyage de classe qui vous a marqué, Joséphine ?
Ah oui, beaucoup. C'était super intéressant. Et d'entendre les histoires des reporters, les photographes et les journalistes, tout ce qui se passe dans le monde, ça ouvre les yeux et c'est très intéressant. Et puis, ça marque.
Alors, je sais que vous avez eu l'occasion de faire des petits reportages radio, photos également, à l'occasion de ce voyage de classe. Et vous-même, vous regardez pas mal d'émissions, de télévision, de débats, de choses comme ça ?
Oui, assez souvent, oui.
D'ailleurs, je vous cache pas qu'on a discuté, hein, on va le dire aux auditeurs, on a discuté hier soir au téléphone toutes les deux, et vous me dites, ah oui, je vois des émissions sur YouTube, et en fait, c'est intéressant parce que les jeunes aujourd'hui savent plus très bien quelle chaîne ils regardent. Ils regardent évidemment sur Internet a posteriori, ils regardent peu la télévision en tant que telle, hein, je me trompe pas, Joséphine.
Bah, on regarde encore un petit peu la télévision, mais c'est pas vraiment pour regarder des débats, quoi.
Donc c'est ça. Donc le média, c'est YouTube.
Ouais, voilà.
c'est intéressant. Un commentaire, peut-être.
Oui, non, mais je pense qu'en effet, c'est les nouveaux usages des jeunes aujourd'hui par rapport aux médias, et c'est aussi les aider à identifier quelle est la source de ce média. Et je pense que quand on regarde une vidéo sur YouTube, on doit être en mesure de savoir d'où vient l'information, et je pense que ça, c'est un enjeu de l'éducation aux médias et à l'information absolument essentiel, parce que en effet, on ne sait plus d'où ça vient, on ne sait plus quels médias portent ce contenu, et il faut qu'on soit en mesure de pouvoir l'identifier.
Alors, néanmoins, les jeunes ont beaucoup, même s'il y a la question des sources, ils s'interrogent beaucoup sur la fiabilité de ce qu'ils regardent. Joséphine, je crois que vous avez deux questions à poser à nos invités pour alimenter le débat de l'émission sur l'éducation aux médias.
Oui, alors... Le devoir d'un journaliste est-il d'être neutre ? Parce que, comme je disais hier, j'ai regardé une vidéo et c'était un journaliste qui il parlait il y avait un débat et le journaliste, il expliquait une personne, donc un intellectuel, et il disait oui, c'est un révisionniste. Et ensuite, il a dit que tout le monde ne connaît pas, et fort heureusement d'ailleurs. Et j'ai trouvé ça inacceptable qu'ils disent et fort heureusement d'ailleurs, parce que si les journalistes sont neutres, ne sont pas supposés donner une opinion, c'est-à-dire le journaliste, il recommandait pas cet homme au public. Et je trouve ça.
Alors, juste pour décoder un peu pour nos auditeurs, quand un intellectuel est qualifié de révisionniste, ça veut dire qu'il remet en cause l'existence des chambres à gaz. Et donc, vous, finalement, vous avez le sentiment que le journaliste avait l'air de dire aux téléspectateurs qu'il s'agissait d'un individu peu recommandable de par ses positions intellectuelles.
Oui, c'est ça.
Et ça vous a choqué ?
Ça m'a beaucoup choqué que...
Ils disent « tout le monde ne le connaît pas, fort heureusement ».
Oui, voilà, parce qu'il aurait dit « tout le monde ne le connaît pas, point ». Bah voilà, c'est vrai, pas tout, forcément tout le monde ne connaît cette personne, mais le fait que fort heureusement d'ailleurs...
Alors Stéphane Lagarde, est-ce que vous auriez parlé d'un intellectuel affichant des positions révisionnistes en disant « oui, un tel que tout le monde ne connaît pas, fort heureusement ».
Ça aurait pu arriver malheureusement, oui. Il faut éviter de toute façon les adjectifs. Elle a raison, Joséphine, le devoir d'être neutre, c'est difficile. C'est difficile d'être neutre, hein, faut le dire. Des fois, on est ému, on est sur un terrain, on rencontre des familles. Moi, je me rappelle d'une famille qui s'était fait voler son enfant en Chine, je peux vous dire qu'on est là, on se dit quand même, on a envie de prendre le parti de la famille, mais on écoute aussi le point de vue des autorités quand elles veulent bien parler, on est obligé de faire la part des choses, mais éviter les adjectifs, ça permet de dire quand même ce que c'est qu'un révisionniste et dire que c'est pas bien.
Hein, vous voyez,
on peut tout à fait, sans dire fort heureusement, on peut décrire la situation.
Voilà, Hitler n'a pas été un chef d'État comme les autres, par exemple, donc on peut dire que ça a été une épouvante. Donc est-ce qu'il y a des situations qui doivent permettre aux journalistes d'utiliser des adjectifs, c'est ça la question qui est posée finalement. Qui veut répondre là.
Moi, je veux bien intervenir. Disons que ce que nous on fait passer, on essaie de faire passer à nos élèves lorsqu'on fait l'éducation aux médias, c'est véritablement donc de leur faire comprendre que les journalistes n'ont pas une attitude qui est objective. Elles n'ont pas une attitude non plus qui est neutre. Être journaliste, informé à travers les médias, c'est quelque chose qui est évidemment complètement humain et donc complètement subjectif. Et donc nous, ce qu'on apprend donc à nos élèves, c'est une attitude de croisement, croiser les sources. croiser les informations, multiplier les informations et non pas se contenter d'une seule source. Parce que justement, il y a évidemment subjectivité du travail journalistique et cette subjectivité, il faut la prendre en compte et ne pas être angélique, entre guillemets, par rapport aux messages journalistiques qui sont par essence subjectifs.
Tout à l'heure, on parlait de picorer l'actualité sur Internet. Elle a raison, Joséphine. C'est vrai que maintenant, le net, ça permet aussi de s'informer, hein, dès l'instant où on vérifie ses sources. Mais pareil, il faut vraiment trier, faire regarder d'où ça vient, comprendre. Et puis voilà, il suffit de faire la part des choses, tout simplement. Hein. Écouter plusieurs points de vue. Et effectivement, le journaliste peut avoir un point de vue sur le monde. En tout cas, les sujets sont choisis. Donc, par définition, quand on choisit un sujet, c'est pas forcément neutre. Et voilà, et bien, il faut simplement croiser les sources.
Alors, justement, à ce propos, Joséphine, vous avez une autre question à poser à nos invités.
Oui. Pensez-vous que les citoyens français ont la même liberté d'expression en tant qu'individus que les médias ? Parce que si un individu il dit quelque chose ou il informe ses amis sur Facebook ou il critique quelque chose, les politiques par exemple, via les médias par Internet, etc., est-ce que plus tard, si les médias font la même critique ou informent de la même chose, donc c'est la même situation, est-ce qu'il y aura des réactions différentes ? Est-ce que c'est normal ?
Vous faites allusion aussi à Charlie Hebdo, là, indirectement, Joséphine.
Oui, voilà.
C'est ça. Vous voulez dire que Charlie Hebdo, sous-entendu, quand c'est un organe de presse déclaré, etc., peut avoir plus de liberté que certains individus sur leur page Facebook ? C'est ce que vous vouliez dire ?
Oui, voilà. Donc, est-ce que si... un individu, par contre, avant les
attentats,
ils écrivent ou ils dessinent, ou enfin, ils font quelque chose comme ça, ils le publient. Est-ce que les réactions seront les mêmes que si c'était le média qui l'avait fait en premier,
par exemple ? C'est une question compliquée. Hein.
Je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'on est dans une individualisation de la consommation médiatique, hein, clairement, on se retrouve dans cette configuration-là, on peut avoir des éditorialistes qui ne sont pas des journalistes qui émergent sur les nouveaux supports. Réellement, on voit les succès, alors pas spécialement sur des débats, mais on voit le succès de certaines vidéos ou de certains genres vidéo sur YouTube, c'est absolument, absolument énorme. Et dans cette configuration-là, je pense qu'il y a tout un travail aussi à faire pour, en tout cas, chacun est en mesure de pouvoir s'exprimer, chacun est en mesure, et je pense qu'en France, on a encore cette liberté d'expression-là, mais cette liberté d'expression-là, elle se fait aussi dans le respect de l'autre. Et ça, c'est une dimension très très importante aussi. La liberté d'expression, elle se fait aussi dans le respect de l'autre. Et il faut aussi, dans le cadre de l'éducation aux médias et à l'information, bien préciser qu'il y a des règles quand on est amené à être...
Globalement, il y a plus de débordements sur des pages Facebook d'individus que dans une presse qui est institutionnelle et qui respecte des règles.
Exactement. Mais du coup, il faut aussi que chaque individu soit en capacité de pouvoir intégrer ces règles-là. Mmh. Et ça passe aussi par l'éducation. C'est-à-dire la diffamation, les questions en lien avec la diffamation, la question en lien avec aussi le vivre ensemble, les propos qui ne sont pas acceptables.
Stéphane, qu'est-ce que vous pensez de la question de Joséphine ?
Moi, je ne peux pas répondre pour la France, parce que c'est vrai que j'y étais pas pendant un moment, mais pour la Chine, c'est très important ce que vous dites, Joséphine. Aujourd'hui, oui, la voix des individus compte énormément, et même le pouvoir chinois le sait, cette opinion publique compte. La preuve, c'est que vous le savez, en Chine, presque tous les médias officiels, en tout cas, ne donnent pas une couverture complète. C'est le moins qu'on puisse dire de l'actualité. C'est une actualité orientée par le Parti communiste chinois. Mmh. Et donc, pour s'informer, il faut aujourd'hui effectivement regarder le net. Et ce sont des individus, Joséphine, qui parlent de la pollution, qui parlent des problèmes à côté de chez eux. Et ça fait émerger des choses dans la société. C'est même repris parfois par le pouvoir chinois. Mmh. Donc oui, tout à fait, aujourd'hui en Chine, la voix des individus compte énormément.
Mais je pense qu'on peut prendre aussi un autre phénomène. Hein, ceux qui sont amenés à faire...
Les lanceurs d'alerte
sont aussi un vrai phénomène aujourd'hui qui a son importance et qui sont des individus et qui sont amenés à avoir à offrir
une
aussi
une concurrence des médias
avec des dérapages parfois.
Joséphine, il nous reste quelques secondes avant de lancer le flash. Est-ce que vous voulez réagir par rapport aux réactions de nos invités et de votre question ?
Je pense que vous avez assez bien répondu, mais
bon, vous êtes satisfaite ?
Oui,
à peu près.
Oui, à peu près.
Bon, c'est bien, vous avez des questions avec une vraie méfiance par rapport aux médias et vous avez raison. Eh bien, on vous souhaite une très très bonne journée à Oslo, lycée français d'Oslo. Et quant à vous, les voisins et les voisines, vous restez à l'écoute avec nous. Vous pouvez nous appeler. Nos invités sont toujours dans le studio. L'éducation aux médias, comment enseigner le sens critique et la distance. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins. On est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. On parle éducation comme chaque vendredi et à l'occasion de la semaine de la presse à l'école. Ça s'appelle plus exactement comme ça, me disait Étienne Récamier.
Ça s'est jamais appelé comme ça.
Enfin, en tout cas, dans les médias.
La semaine de la presse et des médias.
Oui, enfin, dans les médias, on dit souvent la semaine de la presse à l'école.
Oui, mais si vous voulez, il y a une petite ambiguïté parce que beaucoup croient que la semaine, cette fameuse semaine, est consacrée à la presse écrite. Alors que,
absolument pas.
C'est beaucoup plus large. Voilà. Et comme on l'a bien dit tout à l'heure, l'éducation média, c'est l'éducation de tous les médias.
Exactement.
Y compris, bien évidemment, les médias sociaux.
Vous connaissez les mauvaises habitudes des journalistes de vouloir tout simplifier et tout vulgariser.
Ah, ça serait intéressant qu'on en reparle.
Jean-Marc Mériot, en tout cas, alors, est avec nous, directeur général du réseau Canopé Clémy, qui est le Clémy, qui est un centre d'éducation aux médias, qui travaille avec l'éducation nationale et qui est vraiment la cheville ouvrière de cette fameuse semaine. Et vous, Étienne Récamier, vous êtes le coordonnateur Clémy de l'Académie de Paris. Et Stéphane Lagarde, journaliste au pôle international de RFI, correspondant en Chine, donc à Pékin, pendant 3 ans et demi, sauf que vous n'êtes pas du tout resté à Pékin. Vous avez longuement sillonné la Chine, Stéphane. Et quant à vous, vous nous appelez les voisins au 33 1 84 22 71 71. Comment enseigner les médias à dans l'éducation, dans la classe, à l'école? On est en ligne avec une autre lycéenne, Lala, qui est malienne, qui était au lycée français de Bamako. Bonjour Lala.
Bonjour.
Lala, vous avez 18 ans, vous êtes donc malienne au lycée français de Bamako. Alors vous, comment vous vivez les médias dans votre lycée, surtout par rapport à vos camarades? Quelle est leur perception des médias chez vous?
Je pense que en fait, mes camarades s'intéressent de moins en moins aux médias et ils ont du mal en fait à faire le tri de l'information.
Oui, pourquoi vous dites ça?
Oui, pourquoi vous dites ça? Parce que en fait, déjà, la presse, enfin, tous les journaux déjà, ça se lit beaucoup moins. Je veux dire la presse papier, mais on est beaucoup plus sur Internet, la télévision et tout ça. Et le fait aussi que on n'arrive pas vraiment à faire le tri de l'information dans la mesure où quand on écoute une chaîne, qu'on lit un article ou qu'on regarde une vidéo, on n'a pas un esprit assez critique ou on n'a pas cette curiosité d'aller voir ailleurs pour voir si en fait les informations sont toutes cohérentes ou alors c'est des divergences dans l'information. Quoi. Mmh.
Alors, je sais que vous avez dit au Standard que vous aviez une prédilection pour les émissions participatives. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Je veux dire que par là que c'est beaucoup plus intéressant parce que déjà on se sent beaucoup plus concerné et ça permet aussi de nuancer le discours et avoir différentes opinions sur le même sujet dans la mesure où ce n'est pas uniquement le journaliste qui transmet l'information mais la population, que ce soit des jeunes, des plus âgés, enfin peu importe, tout le monde peut participer, donner son opinion, ce qui nous permet d'être beaucoup plus prudent et de nuancer le discours un peu des journalistes.
Quoi. C'est ça, en fait vous aimez bien les émissions, il y a des auditeurs qui téléphonent pour donner leur point de vue sur un fait d'actualité.
Oui, voilà. Et en plus, c'est beaucoup plus vivant parce que ça nous évite d'écouter la radio et écouter la même voix, la même personne pendant des heures et des heures. C'est beaucoup plus captivant et instructif.
D'accord. Qui veut réagir là par rapport aux propos de Lala?
Moi, je pense que Lala, elle a dit quelque chose d'absolument essentiel. C'est la question de la curiosité. Aujourd'hui, pour pouvoir appréhender le média, il faut avoir cette curiosité. En effet, il faut aller chercher partout, il faut aller voir partout. Une info amène à une autre info. Et le web nous amène aussi. C'est ça le web. C'est cette capacité à aller d'une info à une autre et de faire soi-même son propre travail d'investigation. Et c'est ça aussi, aujourd'hui, les nouvelles formes d'éducation aux médias. C'est plus un seul support. C'est une multitude de supports. C'est aller d'un support à un autre et de comprendre et de faire le lien entre tous ces supports-là. Et je pense que c'est ça, essentiellement, aussi l'environnement dans lequel évoluent les jeunes aujourd'hui. C'est de faire comprendre tous ces liens-là.
Et un travail aussi. Oui.
Il y a deux difficultés. La difficulté, en effet, c'est celle, d'arriver à se repérer par rapport à l'information. En fait, on est passé à une époque maintenant où l'information, entre guillemets, est en 3D. C'est-à-dire qu'en permanence, on peut aller dans l'information et aller plus loin. En effet, sur le web, on peut en permanence aller plus loin dans l'information. On n'est plus dans le 2D de la presse écrite. On est dans le 3D, on peut toujours aller plus loin. C'est-à-dire qu'on est passé d'une époque où les compétences recherchées étaient celles d'être informé, et maintenant il s'agit d'être capable de s'informer, ce qui est très différent. Après, la deuxième difficulté qui est mise en avant, c'est l'apparence, je dirais. Tout à l'heure, on parlait de YouTube. Et en effet, quand on parle de YouTube, de Facebook, etc., lorsqu'on discute avec les élèves et qu'on leur fait comprendre en quoi consistent finalement les informations contenues sur les réseaux sociaux, eh bien, on met en évidence que le projet de communication n'est pas apparent. Il y a un système, il y a une apparence, et derrière cette apparence, il y a de multiples projets. Et ça, on essaie de le mettre en évidence. Par exemple, on pose de façon tout à fait naïve à nos élèves quel est le profil Facebook qui a été le plus visité en 2014, et on nous répond Obama, etc., etc. Et quand on leur dit que le profil Facebook le plus visité, le plus aimé, c'est Coca-Cola en 2014 et qu'en 2013, c'était Nutella, eh bien là, tout le monde tombe par terre. Ouais. Tout le monde tombe par terre et on découvre que derrière une même apparence, on peut avoir eh bien, des profils Facebook qui sont très intéressants en matière d'information, et puis d'autres profils qui ont des projets tout à fait autres que de l'information pure, qui peuvent être des projets de communication commerciale, etc.
Moi, brièvement, j'ai envie de donner un point de vue subjectif, si je peux. 100% d'accord avec Lala. À Bamako, moi, je trouve que ce qui est le plus horrible en ce moment, c'est un point de vue subjectif, c'est quand les journalistes se parlent entre eux. C'est-à-dire que maintenant, il y a des émissions à la télé où il y a des polémistes, qu'on appelle. Il y en a un qui joue, je suis le journaliste de droite, le journaliste de gauche, et on répond. Moi, je préfère quand il y a des, comme une émission comme ici, c'est participatif, il y a des auditeurs.
En même temps, ça met une pression, hein. Ça veut dire que finalement, on donne la même légitimité aux auditeurs qui n'ont pas passé autant de temps que les journalistes à travailler sur un sujet. Donc, c'est pas facile.
Oui, quand même, Lala,
il faut ouvrir les médias, il faut ouvrir sur l'extérieur.
Oui, mais c'est déjà le cas, hein. On voit avec cette émission, avec votre émission, Emmanuel, déjà les auditeurs participent. Et puis, on a Juan Gomez le matin sur RFI.
Bien sûr.
Et c'est quand même important aussi d'écouter la radio, Lala, et notamment nos journalistes, des fonds RFI évidemment, mais qui vont sur le terrain, qui vont chercher des informations. Et tous les individus, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils sont au lycée, par exemple, hein, vous n'avez pas le temps tous les jours. Le métier de journaliste, c'est aussi de se libérer du temps pour aller voir les autres et ramener des informations. Et ça, tout le monde peut pas le faire.
Bon, Lala, on veut pas confisquer la parole dans le studio. Donc, vous avez la parole. Est-ce que vous souhaitez réagir, lycéenne malienne de 18 ans à Bamako?
Oui, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, même si on prend les crises qui touchent le pays actuellement ou qui touchent tous les pays en général, le fait de faire participer, enfin, de plus valoriser les témoignages et tout ça, ça permet de mieux contextualiser les choses, en fait, parce que certains journalistes aussi ne prennent pas assez de recul et ont un regard beaucoup plus externe des choses. Alors que quand on comprend vraiment ce qui se passe à l'intérieur même du pays, et c'est comme ça qu'on peut forger l'opinion publique, parce qu'on essaye d'interroger et de comprendre un peu tout le monde.
C'est ça, entendre davantage le témoignage de citoyens finalement sur la situation qu'ils vivent, c'est ce que vous voulez dire.
Hein. Oui, voilà, et que les journalistes et les auditeurs aient la même légitimité, c'est beaucoup plus important, parce que en réalité, on ne peut pas dire que... Personnellement, je me méfie des médias dans la mesure où je ne pense pas que les journalistes détiennent la vérité. Il y a beaucoup de manipulation. Enfin, je veux dire, il peut y avoir...
Oui, ça on a compris que vous vous méfiez tous des médias. Hein,
en même temps, là, les journalistes vont simplement donner la parole. Normalement, c'est ça, le métier de journaliste, c'est d'aller voir les gens sur le terrain. En l'occurrence, par exemple, au Mali, on a plusieurs correspondants qui vont tous les jours voir les Maliens. Donc, le métier de journaliste, si c'est confisquer la parole, c'est pas bien. Si c'est d'ouvrir son micro, c'est différent quand même. Là, les gens, normalement, les bons journalistes vont voir les personnes et vont les écouter.
Hein. Mais ça serait peut-être intéressant aussi que les journalistes soient plus à l'écoute des auditeurs lorsque les auditeurs leur donnent des informations et leur demandent des précisions. Pareil, un cas tout à fait typique avec lequel nous on est en difficulté avec nos élèves. On entend parler en permanence d'État islamique sur les informations. État islamique, ce n'est pas un État. Comment expliquer à nos élèves que lorsqu'ils entendent État islamique, eh bien, on leur précise que l'État islamique n'est pas un État.
Oui, parce que vos élèves, ça fait très longtemps,
ça fait des mois que moi, par exemple, qui vais souvent en Algérie, mes amis algériens ne comprennent pas pourquoi dans les médias français on parle d'État islamique et non pas de Daesh.
Que ça soit
définitif et qu'on arrête de parler d'État islamique qui donne du crédit à des gens qui doivent.
Moi, je travaille au service étranger des RFI, on dit des fois Daesh, mais on dit surtout groupe État islamique, groupe, on dit.
C'est déjà de trop.
Parce que les lycéens, vous voyez, ils vous disent, mais monsieur, on comprend pas, c'est quoi, c'est un État ou c'est pas un État? C'est ça,
exactement,
en fait.
Exactement, c'est ça notre problème.
Vous êtes obligé d'expliquer.
Et si je peux me permettre, donc, on est sans arrêt, enfin, très souvent face à ces stéréotypes qui sont véhiculés par les médias. Ces appartenances, par exemple, dont les concepts qui sont véhiculés par les journalistes concernant les appartenances religieuses, les appartenances ethniques, les appartenances géographiques qui, curieusement, sont mis de côté. On parle de monde arabo-musulman très facilement, dans les médias. On parle en face de monde occidental. C'est que d'un côté, il y a une référence géographique, de l'autre côté, il y a une référence qui est liée à l'ethnie, liée à la religion. Et ça nous donne de la complexité pour nous, avec nos élèves, hein, pour leur donner, pour leur permettre justement d'avoir une distance par rapport aux informations.
Effectivement, mais sans faire de raccourci, mais vraiment, vous parliez d'une radio commerciale tout à l'heure, sur RFI par contre, hein, bien sûr qu'on fait aussi des généralités, mais la plupart du temps, non, nous, les pays sont différents, les personnes sont différentes dans les pays. Moi, en Chine, on parlait des différentes ethnies, des différentes minorités, jamais on fait de... On essaye d'éviter, on est une radio internationale et ça,
on fait pas mal de... On essaye de faire de la pédagogie.
Pour le coup, on ne fait pas d'arabes musulmans, ça n'existe pas chez nous.
Hein. Ouais. Bon, Lala, merci beaucoup de nous avoir appelés. Nous accueillons une auditrice qui est journaliste. Bonjour Nira.
Bonjour Emmanuel.
Nira, vous étiez journaliste en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous êtes basée à Luanda, donc en Angola. Je crois que vous avez cessé votre métier pour le moment.
Je suis en recherche de travail, non, je n'ai pas cessé.
D'accord. En tout cas, vous êtes toujours journaliste dans l'âme et vous cherchez du travail. Vous souhaitiez vous exprimer sur des rencontres scolaires que vous avez eu l'occasion de faire avec des lycéens à Kinshasa.
Oui, c'était en 2012, dans une classe de 3e secondaire, donc j'avais à peu près 14-15 ans. Mmh. J'étais invitée à un débat qui portait sur les métiers de l'audiovisuel. Mmh. Et on en est arrivé à parler... de la presse et des médias, et à savoir si ces enfants s'intéressaient à tout ça. Il y avait deux groupes. La grande majorité était très peu intéressée, très très peu intéressée. Et prenait certains faits racontés dans la presse, à la télévision, à la radio, pour des histoires inventées. Parce que, je ne sais pas, ils disaient qu'ils ont dramatisé toujours. Mais l'autre petite partie de la classe aimait s'informer sur à peu près tout. Avait plus de critiques, avait même classé certains médias locaux par ordre d'information par ordre de qualité d'information, disons, fournie. Mm. Et ils aimaient analyser les informations, lire les journaux, regarder la télé, et avaient leur propre point de vue sur certains sujets de la presse. Mm. Donc on avait deux groupes comme ça, mais la grande majorité n'était pas très, très intéressée par la presse, parce qu'ils disaient qu'il y avait beaucoup de mensonges, beaucoup de choses inventées.
Alors,
pour un peu gonfler l'audimat, pour attirer les lecteurs, c'était un peu ça.
Oui. Merci Nira pour ce témoignage. Je suis désolée, la ligne malheureusement téléphonique se dégrade à Luanda. La situation, alors vous êtes à Luanda aujourd'hui en Angola, mais la situation en République démocratique du Congo de la presse est compliquée. Il n'y a pas d'éducation aux médias dans les écoles et dans les lycées en République démocratique du Congo. Est-ce que, selon vous, je pose la question à nos invités du Clémy, est-ce que moins il y a d'éducation aux médias, plus il y a une tentation du rejet en bloc de l'information, de ce qui vient de l'extérieur ou pas?
Disons qu'aujourd'hui, l'éducation à l'information n'est pas l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire que ça constitue un des éléments qui doit aussi, parce qu'il faut continuer à savoir lire, écrire, et avoir un certain nombre de fondamentaux pour se créer quand même se créer sa propre culture et pouvoir comprendre le monde. L'éducation aux médias et à l'information constitue un élément et doit constituer de plus en plus un élément essentiel pour comprendre le monde dans lequel on vit et dans lequel on évolue. Cependant, ça constitue un tout dans un univers, dans un monde d'éducation. Donc, l'éducation au sens plus large est aussi fondamentale pour l'ensemble de ces pays. Et il faut intégrer l'éducation aux médias et à l'information comme étant quelque chose aussi de fondamental dans l'ensemble de la pédagogie. Mmh. Mais je pense pas que c'est en soi,
Stéphane Lagarde, est-ce qu'il y a des citoyens qui, sachant qu'ils ne font pas confiance à la presse de leur pays, du coup sont dans un rejet comme ça et se disent, du coup ça ne m'intéresse pas?
Oui, mais étonnamment, moi je trouve que c'est moins fort qu'en Occident, pour cette généralité, mais mettons en Europe, où il y a en ce moment profusion sur les théories du complot, tout ce que vous voulez, on rejette en masse.
Qui marche très bien chez les jeunes,
Sur Facebook, on a fait une émission à chaque fois, ce que disent les journaux, c'est faux. Enfin voilà. Eh ben, en Chine, évidemment, les jeunes se méfient notamment du jargon employé par le Parti communiste. Donc dès qu'ils voient que c'est trop officiel, ils se disent bon là, on écoute d'une seule oreille. Mais surtout, on apprend à lire les médias quand on est un jeune chinois. On apprend à voir, par exemple, que sur une photo officielle, ce qui est important, c'est celui qui manque, c'est pas celui qui est dessus. Par exemple, l'ancien président Jiang Zemin, à un moment, avait disparu. disparu de la photo, oula, ça veut dire qu'il y a un clan qui est contre lui. Ils interprètent, ils comprennent ça. Quand on parle, par exemple, à un moment, il l'appelait, cet ancien président chinois, à des grandes lunettes comme ça, un gros visage rond, il l'appelait le crapaud pour parler de lui. Alors tout le monde savait que quand on parlait du crapaud, eh ben, c'était Jiang Zemin. Alors après, évidemment, les censeurs ont censuré le mot crapaud. Mais il y a plein de manières de comprendre les médias, même officiels, d'en parler différemment.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 et pendant que vous nous appelez, nous contactons Marie. Nous sommes en ligne avec Marie Gita Sevi, qui est une lycéenne en première scientifique au lycée français international de Bangkok, puisque je vous avais dit que nous avions cette initiative depuis le début de l'émission de contacter des lycéens, mais dans les lycées français de l'étranger. Bonjour Marie Gita Sevi.
Bonjour.
Vous avez 16 ans donc, comme votre collègue élève à Oslo qu'on a eu tout à l'heure. Vous êtes franco-thaï, vous avez toujours grandi en Thaïlande. La presse que vous regardez, que vous lisez à Bangkok, alors c'est une presse de quel pays finalement, avec un père thaï et une maman française?
Alors moi, bien que je vive en Thaïlande, je vis dans un milieu complètement francophone. Donc lorsque je lis la presse, en général je la lis sur internet par exemple, dans des journaux français, ou je la vois à la télé sur des chaînes qui passent des programmes français. Ou alors, il m'arrive parfois de lire un journal qui s'appelle le Bangkok Post, qui est un journal thaïlandais, en fait, qui vient de Thaïlande, ouais, mais qui parle des événements qui se passent en général dans tout le monde.
Très bon journal, dit Stéphane Lagarde.
Et beaucoup d'informations.
Et alors, dans votre lycée aujourd'hui, on a parlé donc de ce sujet, de l'éducation aux médias.
Oui, c'est ça. On a eu une conférence d'un journaliste qui s'appelle Monsieur Dubu, qui est venu nous présenter un peu le journalisme, son métier, son histoire.
Arnaud Dubus, le
correspondant.
Le correspondant
de RFI en Thaïlande, oui, depuis très longtemps.
Vous connaissez bien, oui, Stéphane. Monsieur Arnaud Dubus.
Monsieur, on appelle ça. Oui, Monsieur Arnaud Dubus, oui.
Oui, Marie, poursuivez.
Oui, donc j'ai trouvé ça très intéressant. Et je me posais notamment une question par rapport à ce qu'il nous a dit, parce que Monsieur Arnaud Dubu a beaucoup travaillé en Asie, a fait beaucoup de reportages sur l'Asie. Et ce que je me demandais, c'est dans des pays, donc par exemple en Asie, comme par exemple la Chine, je suppose que certaines informations qui concernent le gouvernement ou d'autres sujets assez sensibles dans ces pays que ces informations sont censurées. Donc lorsqu'un journaliste veut écrire un article à ce sujet, comment est-ce qu'il fait pour faire face aux contraintes liées aux valeurs et aux interdictions posées par les pays concernés? Comment est-ce qu'il trouve l'équilibre entre informer le public sans pour autant poser de problème?
Alors une réponse peut-être assez courte, simplement pour vous dire que, par exemple, la pollution jusqu'en 2010, les micro-particules de pollution dans l'air, comme on a à Paris aujourd'hui, mais il y en a beaucoup plus à Pékin, c'était interdit d'en parler dans les médias chinois, que ce soit sur Internet, partout, enfin dans tous les médias. Et qu'est-ce qu'ont fait les journalistes? J'en ai rencontré un journaliste du Beijing News, donc des nouvelles de Pékin, un journaliste qui pouvait pas s'exprimer dans son journal. Il a été, et ça on le voit en France, hein, il a été faire un blog, et il a été en parler avec un pseudo sur Internet. Voilà, et on a parlé de la pollution, on a dit c'est plus possible, il y a de la pollution, il faut faire quelque chose. Il avait pas le droit de le dire dans les colonnes de son journal, il a été le dire, et puis petit à petit, plein de citoyens d'ailleurs ont fait ça, des intellectuels, et du coup, eh ben, les autorités ont été obligées de réagir.
Alors, changer de support, mais il y a aussi changer de type d'écriture, hein. Je crois que c'est le sujet que vous avez eu avec la conférence d'Arnaud Dubus dans votre lycée, Marie, non? C'est-à-dire dire autrement.
Oui, c'est ça, dire d'une manière différente, de manière qui passera mieux finalement dans son propre pays, les choses qui ont finalement la même signification.
Et donc là, vous avez fait des découvertes sur la richesse que peut avoir l'écriture.
Oui, effectivement, c'est assez impressionnant, toutes les choses qu'on peut dire rien qu'avec quelques mots.
Ouais, donc quand on fait de l'éducation aux médias, on fait du français.
Mais surtout
la langue.
Ce qui est mis en évidence, oui, bien sûr, la langue, mais ça pose un problème, c'est que cette langue, si vous voulez, médiatique, elle évolue. Est-ce que la web écriture, c'est la même chose que l'écriture sur un journal papier? Donc dans nos séquences nous d'éducation aux médias, ben évidemment maintenant on aborde l'écriture médiatique d'aujourd'hui. Faut-il continuer à faire en sorte que nos élèves apprennent à écrire pour le papier, ou faut-il faire évoluer les choses et faire en sorte que nos élèves apprennent à s'exprimer pour le web, pour un écran? Écrire pour un écran, c'est pas la même chose que écrire pour un papier. Ce sont des enjeux très importants, hein, dont on discute et que l'on met en place dans nos séquences d'éducation média.
Et j'insisterai aussi sur un autre point, c'est la place de l'image. C'est-à-dire que la place de l'image aujourd'hui a pris une telle importance, surtout dans le web. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait encore la place de l'écrit qui était très importante, mais aujourd'hui, la consommation d'image est absolument a explosé totalement, et donc c'est cette
qui pose d'autant plus un problème de confiance, l'image.
Oui, parce que on sent la question,
très bien comment on voilà. Les
et puis on peut la manipuler, et puis de coup, ça veut dire que comment on est amené aujourd'hui aussi à faire une éducation au langage de l'image.
La web écriture, c'est ça. Hein, la web écriture, elle est transmédia. Hein, c'est-à-dire que la web écriture, par définition, elle intègre l'écrit traditionnel, mais aussi l'écrit par l'image fixe, l'écrit par l'image animée,
et le son, hein,
et le son, l'écriture par le son. Tout ça, ce sont des types d'écriture sur lesquelles on va être amené à travailler.
Marie, merci de nous avoir d'avoir été en ligne avec nous. On vous souhaite une très très bonne soirée à Bangkok, puisque vous avez terminé les cours à l'heure qu'il est. Nous accueillons un auditeur qui nous appelle de Yaoundé au Cameroun. Bonjour Roussel.
Bonjour Emmanuel, bonjour les invités et les milliards de voisins.
Soyez le bienvenu Roussel. Vous souhaitiez soulever le problème des clubs de presse, des journaux de lycéens. Je crois que vous avez appartenu à un journal dans votre lycée, maintenant vous êtes étudiant.
Oui, je suis étudiant. En 2011, j'étais au club journal de mon lycée.
Oui.
Et puis on s'est arrêté à un véritable problème de contrôle de l'information parce qu'on avait voulu mettre sur pied un petit journal bimensuel et dans lequel on devait aborder les différents problèmes des jeunes et les difficultés qu'ils peuvent rencontrer à l'établissement durant leur cursus scolaire. On s'est arrêté un peu à l'administration qui avait un peu peur de cela parce qu'ils ne pouvaient pas contrôler l'information et aussi il y avait une petite portée politique parce qu'ils avaient peur qu'après, si on aborde des sujets tels que le harcèlement, ça pouvait arriver dans les oreilles du maire.
Le harcèlement sexuel, des enseignants à l'encontre des élèves, c'est ce que vous voulez dire?
Tout à fait, tout à fait.
Oui, c'est un vrai problème dans les établissements scolaires.
Ça a été un peu mitigé.
D'accord,
oui,
alors
après,
ça
a un peu mitigé, oui.
Merci. Oui, non, mais merci Roussel pour soulever ce problème-là parce que dans de très nombreux lycées, il y a des velléités, des envies très fortes, hein, des élèves de monter. Hein. Alors si on n'a pas beaucoup de moyens, ça peut être un support papier, un journal lycéen tout simple. Ça peut être ensuite des blogs, des choses informatiques si l'établissement est suffisamment doté en ordinateur. Il y a le problème du contrôle.
Oui. D'abord, il faut préciser qu'il y a une ambition en France, clairement énoncée par la ministre, qui est de mettre en place un média dans chaque établissement d'expression des élèves. Voilà. Par rapport à ce que vient de dire notre auditeur, hein, d'un point de vue plus large, évidemment au niveau international, nous avons des textes. Hein, il y a la Déclaration des droits de l'enfant. Hein, il y a les Déclarations des droits de l'homme aussi. Et la Déclaration dans la Déclaration des droits de l'enfant, il est bien précisé qu'on doit tout faire dans le système scolaire y compris pour que les jeunes, les enfants puissent s'exprimer.
Oui, donc, mais vous savez très bien qu'il y a beaucoup de lycéens qui se plaignent dans les établissements scolaires, y compris en France, de ne pas pouvoir écrire ce qu'ils ont envie d'écrire.
En France, on a une circulaire, on a une circulaire officielle du ministère sur laquelle on s'appuie et parfois on a des difficultés. Non, n'hochez pas la tête comme ça.
Non, mais
c'est vrai, mais nous, justement, le CLEMI intervient très fréquemment en arbitrage de façon très positive entre l'encadrement, les proviseurs qui parfois ne connaissent pas d'ailleurs cette circulaire et les élèves qui cherchent à s'exprimer. Voilà, on temporise les choses, on intervient, et puis finalement, tout se finit habituellement très bien.
Mais il y a une information, et il y a aussi une pédagogie à faire au niveau des chefs d'établissement, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi ça, l'éducation aux médias passe aussi par ce biais-là, et c'est le rôle du CLEMI aujourd'hui, de aussi informer les chefs d'établissement sur ce qu'est la liberté d'expression dans un établissement, ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, et je pense qu'à partir du moment où le chef d'établissement est bien informé, aussi, ça nous permet aussi de lever quelques ambiguïtés.
Un message d'un internaute qui nous dit, alors lui il est toujours très critique sur tout ce qu'il entend et il a raison d'ailleurs, mais il nous dit éduquer le peuple, les gens aux médias est essentiel, il faudrait aussi éduquer les journalistes au peuple, aux gens dont ils sont parfois très loin.
Peut-être, oui. Bon, on essaye d'être toujours pas coupé, en tout cas, du terrain. C'est difficile aujourd'hui dans les médias parce qu'on n'a plus forcément les moyens de partir toujours sur le terrain. C'est aussi des questions de moyens, de budget. Mais moi, je peux vous dire que j'ai passé ma vie. En tout cas, quand j'étais en Corée du Sud, j'envoyais tout ce que j'étais dans un papier écrit, à un journal écrit, j'envoyais toutes mes interviews, je les renvoyais, même s'ils comprenaient pas le français, à mes interlocuteurs, quels qu'ils soient. Et en Chine, pareil, toujours être proche des gens qu'on interviewe. Moi, je pense que le but des RFI, notamment, et de tous les médias, c'est de donner la parole aux gens. Ça fait partie, en tout cas, de ça. Donc, on essaye au maximum d'aller s'approcher des citoyens.
Mais je pense que l'enjeu aussi du journaliste, c'est un peu, il y a un parallèle à faire aussi avec l'éducation, c'est les enseignants, c'est aujourd'hui d'être dans une posture de médiateur. Et la posture de médiateur, elle est plus non plus que dans une logique descendante, elle est aussi dans une logique ce qu'on appelle ascendante, c'est-à-dire accepter que l'information puisse venir d'ailleurs et l'intégrer aussi dans comment on est amené à pouvoir transmettre de l'information. Et ça, je pense que c'est aussi une donnée absolument essentielle. C'est aussi un changement de métier lié à l'environnement numérique dans lequel on évolue aujourd'hui.
Mais est-ce que les journalistes aujourd'hui dans la vie intellectuelle française ne prennent pas trop de place, n'occupent pas finalement une place relativement laissée vacante par ce qu'on appelait autrefois les intellectuels?
La société civile, oui.
Oui, la société civile, encore que la société civile, elle existe bel et bien via Internet, mais ce qu'on appelait autrefois les intellectuels. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit le phénomène Éric Zemmour, est-ce que c'est pas un peu des gens qui sont omniprésents dans les médias et qui occupent cette place laissée vacante? Est-ce que qu'est-ce que vous en pensez?
Il y a deux soucis pour moi. Il y a le bruitage, si vous voulez, qui fait qu'on demande maintenant à n'importe qui de donner, d'intervenir comme journaliste. On demande à un comédien sur un plateau d'intervenir comme un expert journalistique et faire des grandes déclarations politiques, etc., sans qu'il ait forcément les moyens de le faire. Ça, c'est un premier phénomène. Un deuxième phénomène que l'on remarque et auquel les élèves sont très sensibles, c'est l'origine socioculturelle des journalistes. Et c'est vrai qu'il n'y a pas assez, si vous voulez, de brassage, d'origine. Et bon, sur la région parisienne, il y a le Bondy Blog, par exemple, qui a fait tout un travail là-dessus, sur essayer de travailler sur un accès à ce métier de journaliste, à des origines socioculturelles extrêmement variées. Et ça, c'est un vrai enjeu que l'on voit chez les journalistes, mais également que l'on voit chez les hommes politiques, et j'allais dire aussi que l'on voit d'ailleurs sur les enseignants d'aujourd'hui.
Des journalistes du Bondy Blog, d'ailleurs, sont maintenant dans des médias mainstream.
Oui, bien sûr, complètement. Et c'est vrai que nous, on travaille beaucoup avec le Bondy Blog, parce qu'on estime que c'est aussi des médias de proximité réels, et c'est une importance très très forte aujourd'hui dans l'univers médiatique. Je pense qu'il y a une autre question aussi qui est la question du temps. C'est-à-dire que aujourd'hui, les intellectuels, on leur donne plus non plus le temps parce que nous sommes dans des médias d'instantanéité. Donc, il faut revenir aussi et redonner de la place au temps dans nos médias. Et je pense que là-dessus, il y a un gros travail à faire parce que c'est par là aussi que passe le réarmement intellectuel.
Ouais. Alors, conclusion, il faut de l'éducation aux médias, il faut ouvrir l'école envers les médias. Ça, vous ne cessez de le faire au Clémy, mais il faut peut-être aussi ouvrir les médias sur le reste du monde, le reste de la société et les gens finalement lambda. C'est ce que nous ont dit, en tout cas, les lycéens, et c'est ce qu'ils attendent.
Oui, mais on le voit bien, nous, après l'événement Charlie, on a plein de médias qui sont venus.
Merci à tous les trois, en tout cas, d'être venus. On se retrouve lundi pour un autre 7 milliards de voisins. Merci à vous tous.